Dans un de ses romans, Marcel Pagnol faisait dire à Jean de Florette qu'il souhaitait cultiver l'authentique. Si cela m'a fait sourire, autant que le papé et Hugolin, en réfléchissant un peu, j'ai constaté que ce n'était pas aussi simple que cela, de cultiver l'authentique. Et finalement même, je me rends compte que Jean de Florette n'était pas le premier à encourager, à cultiver, à vivre cette authenticité. Depuis quelques semaines, nous cheminons au cours des prédications en suivant les enseignements de Jésus lors du serment sur la montagne retracé dans l'évangile de Matthieu. Ces prédications suivies avaient débuté par les béatitudes. Matthieu 5, verset 3. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Suivi des autres qui quelque part en découlent. Dans ce cheminement, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés sur les quatre premiers versets du chapitre 6, au cours desquels Jésus nous invite, en tant qu'enfant de Dieu, à la sincérité dans notre relation de confiance avec Dieu et à faire tomber nos masques, que ce soit dans nos comportements, dans nos actes, dans nos pratiques religieuses. Et ce texte de dimanche dernier se termine par « Que ton aumône se fasse ainsi en secret et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Je vous propose de poursuivre ce matin notre réflexion en lisant cette fois-ci un long texte. Et comme c'est une prédication suivie, on va le lire dans le chapitre 6, à partir du verset 5, et on ira jusqu'au verset 18. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors, ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, te le rendra. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous abordons le thème de la prière et de la pratique de la prière. Un thème récurrent dans notre vie communautaire, dans nos discussions, dans nos cultes. Ici, un long passage en trois parties bien claires. Et si on faisait un sondage, je pense vraiment que celle qui nous marque le plus est celle centrale qui aborde le Notre Père. Enseignement de Jésus bien connu, voici comment vous devez prier. Et nous retenons ce modèle de prière. Prière d'une profondeur et d'une richesse inouïe. Pourtant, en lisant ce long texte, nous voyons que ce Notre Père est placé dans un enseignement plus global. Et nous constatons encore une fois toute la pédagogie de Jésus, cet enseignement cohérent, suite logique de la réflexion et de la mise en pratique, cette fois-ci sur la prière. Et quand on affine un peu plus le texte, l'observation de ce texte, nous voyons une expression revenir à plusieurs reprises, qui finalement est, à mon sens, l'essentiel de ce texte des 18 premiers versets du chapitre 6. Et je pense même que c'est la clé de l'enseignement du Notre Père. Je vous propose de suivre ce cheminement. On l'a dit, le Notre Père est un modèle de prière. Il ne crée pas la prière. Elle existait déjà, était déjà pratiquée. La prière est associée à la religion et je pense même qu'elle est associée à l'alliance voulue par Dieu avec son peuple. Prière, moment de dialogue, à l'écoute de Dieu et d'expression à Dieu. Si la prière n'est pas réservée exclusivement à la religion juive puis chrétienne, on trouvera facilement dans l'Ancien Testament de nombreux exemples de prières et de personnes priant Dieu. Et on voit cela également au verset 5 du texte de ce jour. « Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. » D'ailleurs, dans les versets 5 à 7, Jésus aborde ce thème de la pratique de la prière de manière négative, en reprenant le comportement dévié de la pratique de la prière. Et il fait référence ici à deux types de prières, la prière juive et la prière païenne, adressée à d'autres divinités. Mais Jésus ramène notre réflexion au sens originel de la prière. En dénonçant ces déviances dont nous ne sommes pas à l'abri, Jésus définit du coup le cadre de la prière chrétienne. Tout d'abord, la prière, selon Jésus-Christ, n'est pas un spectacle. Pas besoin de se mettre en évidence dans le temple ou dans la synagogue. Pas besoin de pratiques ostentatoires à la vue de tous au coin de la rue pour montrer quel bon petit chrétien nous sommes, pour montrer notre spiritualité. Tout comme il avait dénoncé l'hypocrisie pouvant exister dans nos pratiques religieuses, et c'était les quatre premiers versets du chapitre qu'on avait vu dimanche dernier, Jésus dénonce ici l'hypocrisie qui peut régner dans la pratique et dans nos prières. Un faux semblant destiné à paraître en oubliant le sens de la prière. Elle est avant tout un face-à-face personnel, intime, avec Dieu. C'est pour cela que chacun peut prier comme il est, avec ce qu'il est, que nous soyons croyants ou en recherche de cette relation avec Dieu. Il n'y a pas de diplôme à obtenir pour parler à Dieu, pour se mettre à son écoute. Après les quatre premiers versets du chapitre 6, Jésus lance un nouvel appel à être sincère dans notre relation avec Dieu, dans ce face-à-face personnel. Dieu parle, Dieu écoute. Et pour cela, il est nécessaire de se retrouver soi-même, seul, dans un lieu personnel. C'est quoi cette pièce la plus retirée, selon les versions, dans ta chambre? Il est dit dans ta chambre. Comment font les gens qui ont pour tout logement qu'une seule pièce et parfois partagée à plusieurs? Ne peuvent-ils pas prier? Ce que nous dit Jésus, c'est que la prière n'est pas réservée à un lieu précis, le temple, la synagogue, l'église, mais la prière est réservée à un lieu d'intimité avec Dieu. C'est pour cela qu'il faut veiller à ce cadre. Alfred Kuhn explique dans un de ses commentaires que la prière la plus retirée dont Jésus fait référence, je cite, est à proprement parler le cellier, un local sans lumière où se trouvaient le blé et le vin. D'une façon populaire, se marque ici le contraste entre la publicité de la rue et l'obscurité du cellier. Ta pièce la plus retirée, ta chambre, c'est n'importe quel endroit dans lequel tu pourras vivre ce face-à-face personnel, intime avec Dieu. La prière est vécue dans ce cadre quotidien, où notre être peut entrer dans cette relation d'écoute et de dialogue avec Dieu. C'est là que se manifeste la nature de Dieu. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu te parle. Verset 6. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Ensuite, Jésus oppose sa conception de la prière, donc prière chrétienne, avec la prière des autres religions. Il dénonce la répétition des paroles qui caractérisent les prières païennes adressées à d'autres dieux. En lisant le verset 7, « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens », je pensais à ce que l'apôtre Paul raconte dans le livre des Actes au chapitre 17. Lors de sa visite d'Athènes, il constate avec exaspération la présence de nombreuses statues, sujets d'idolâtrie. Et il annonce dans les synagogues et sur la place publique la bonne nouvelle de l'Évangile, Jésus-Christ et cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Intrigués, les philosophes demandent à Paul de le rejoindre à l'agora pour en savoir davantage. Et avec une stratégie très fine, Paul va d'abord rejoindre ses auditeurs en soulignant leur religiosité. Toutes ces statues dédiées à des dieux, il y en a même une dédiée à un dieu inconnu. Du coup, il annonce ce dieu inconnu des Athéniens, qui est le dieu créateur de la vie, maître du monde, différent d'une statue sans vie. Et il annonce ce dieu qu'il connaît, un dieu souverain et juste, source de vie, d'une vie nouvelle. Ici, au verset 7, Jésus dénonce les vaines paroles redites à des dieux qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Et comme il n'y a pas de réponse, les adorateurs sont obligés de répéter, en vain. Mais il y a une logique. Après le verset 7, suit le verset 8. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Notre Dieu, Notre Père céleste est différent des idoles. Nous sommes appelés à dire à Dieu ce que nous avons à lui confier. Le Seigneur, Dieu, est omniscient. Il connaît toutes choses. Il me connaît comme il vous connaît. Il connaît nos besoins. On pourrait se passer alors de lui dire tous nos sujets de prière, mais il attend que nous nous lui demandions dans une relation de confiance. Et dans une relation de confiance, il y a une liberté d'expression et une écoute attentive. Alors, inutile de rabâcher. Cela m'interpelle sur ma manière de prier. Je suis libre de m'exprimer dans ma prière. Mais cette prière est adressée à Dieu. Puisque, en principe, pas toujours hélas, mais généralement, on fait attention à notre manière de nous adresser aux personnes qui nous entourent. Pourquoi ne ferions-nous pas attention également à notre manière de nous adresser au Seigneur, Père Céleste ? Serait-il plus honoré parce que je répète plusieurs fois « Seigneur » dans une même phrase ou que j'utilise de belles formules toutes faites, apprises ? Ne serait-ce pas plutôt une habitude de s'exprimer ? Quel est alors son sens ? Dieu serait-il plus influencé parce que j'aurais répété plusieurs fois la même requête dans la même prière ? Cela ne relèverait-il pas plutôt d'une peur personnelle gérée par ces répétitions ? Mais ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Sobriété, concision de la prière ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Mais dans notre prière personnelle comme communautaire, il convient d'entrer dans ce dialogue, dans cette relation où nous savons que Dieu est notre interlocuteur, que Dieu écoute et nous parle parce qu'il nous aime. Pas besoin de répéter inlassablement comme pour essayer de convaincre Dieu de le faire lâcher. Dieu nous aime et répondra selon sa volonté. Il est Dieu. Alors, dans cette relation intime de confiance et d'amour, et même si je pense qu'il y a des sujets intimes qui ne relèvent que de la prière personnelle et d'autres qui peuvent être portés, partagés dans la prière communautaire, alors que notre prière exprime ce qu'il y a dans notre cœur, avec sincérité, sans masque, sans jeu de rôle. Alors soyons pratiques. Comment prier ? Jésus répond à cette question naturelle. Suite à cet appel à la vigilance, il ne nous laisse pas sans ressources et donne ce modèle de prière, le Notre Père. Je me répète, désolé, c'est vrai, cette prière est d'une profondeur et d'une richesse tout en étant concise. L'étude du Notre Père a déjà été abordée, même en prédication suivie, voilà. On ne le fera donc pas ce matin. Mais je voudrais juste attirer notre attention sur son contenu général, sur sa structure. Elle débute, on l'a vu tout à l'heure, Claudine en a parlé, elle débute par l'expression en l'honneur de Dieu, versets 9 et 10. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Dieu préside à nos prières. Nous pouvons l'exprimer différemment, mais Jésus met à la première place la présence de Dieu, du Père céleste, dans nos prières. Mais le Seigneur est aussi attentif à nos besoins humains. Nous pouvons alors lui exprimer nos besoins personnels, de base, quotidiens, la nourriture et les autres besoins, verset 11. Nous pouvons également lui exprimer nos besoins spirituels. Verset 12, le pardon. Pardonne-nous nos offenses, nos torts envers toi. Demande exprimée quotidiennement pour être renouvelé soi-même dans cette certitude de pardon réalisée une fois pour toutes par Jésus-Christ à la croix. Mais compte tenu de ce que nous sommes, c'est un besoin quotidien d'être pardonné et renouvelé dans notre relation avec Dieu. Pardon à recevoir de Dieu et à donner aux personnes qui nous entourent dans une même dynamique de l'amour les uns pour les autres. Et nous avons également un besoin quotidien du secours de Dieu dans nos combats spirituels. Verset 13. Garde-nous de céder à la tentation. Délivre-nous du diable. Pour ne pas céder à la tentation, générée inévitablement par le malin, nous avons besoin de cette aide quotidienne du Saint-Esprit. Enfin, ce modèle de prière se conclut par une expression par laquelle nous rendons gloire à Dieu, le Tout-Puissant. Le « Notre Père » se termine avec la même présence de Dieu que lorsque la prière avait commencé. C'est bien une expression de foi. Oui, nous constatons que la concision des paroles exprimées n'empêche pas le sens profond qu'elles contiennent. Toutes nos pratiques religieuses dans notre vie d'église ont un sens pour l'adoration de Dieu et pour l'édification des croyants de l'église. Sens qu'il convient parfois de nous rappeler. Une fois que ce modèle de prière a été donné, Jésus enchaîne sur la manière de pratiquer le jeûne, pratique liée à la prière. Là encore, le jeûne n'est pas institué par Jésus-Christ. Il existait déjà, puisque ici, Jésus recadre la motivation de la pratique. Cette pratique n'est pas obligatoire. Elle reste liée à notre choix. Cela relève de notre volonté dans le cadre de notre relation personnelle avec Dieu. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans une étude détaillée du jeûne. Tout simplement parce que Jeff a prêché l'an dernier sur ce thème. Donc vous pourrez retrouver cette prédication sur le site internet de l'église, elangoulême.fr, ou plus simplement, quand il sera revenu, vous demanderez ses notes à Jeff. Mais en résumé, en se basant sur des textes bibliques, Jeff avait montré dans quel cadre pouvait se pratiquer le jeûne. Et puis, en se basant sur Ésaïe 58, chapitre 58, versets 3 à 9, il avait montré la pratique du jeûne qui plaît à Dieu. Et c'est cela qui doit présider dans toutes nos pratiques religieuses et même dans notre vie. Ce qui plaît à Dieu. Bien plus qu'un rite, cette pratique du jeûne a et doit avoir un sens profond d'authenticité dans notre relation avec Dieu. Et ce sens retracé dans Ésaïe chapitre 58, versets 3 à 9, se retrouve dans l'enseignement de Jésus dans notre texte du jour. Une pratique sincère, authentique, qui débouche sur les paroles de Jésus au verset 18, que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est dans le lieu secret, alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. C'est une question d'honnêteté dans notre relation avec Dieu. Sortir de ce cadre pour montrer en public notre spiritualité, c'est trahir cette relation primordiale avec Dieu pour se mettre soi-même à la première place d'une pseudo-relation. Jésus nous ramène une nouvelle fois à cette relation authentique où Dieu a la première place. Finalement, Finalement, il y a cette expression récurrente qui ponctue régulièrement cet enseignement de Jésus sur nos pratiques religieuses, qu'on retrouve au verset 4, au verset 6, au verset 18. Ton Père qui voit ou qui est dans le lieu secret, intime, te le rendra. Si nous avons tendance à exprimer principalement dans nos prières nos besoins, reconnaissant notre dépendance à Dieu, Jésus nous montre ici un autre aspect de ce cadre. Il nous invite à donner la première place à Dieu, à centrer nos prières sur Dieu et non sur nous-mêmes. L'expression de nos besoins personnels, de remettre nos proches, nos projets, etc., a toute sa place dans la prière. Et Jésus en tient compte. Mais vous noterez la priorité accordée à Dieu, à nous tourner d'abord vers Dieu, le Père, dans l'adoration, dans la confiance et la reconnaissance qu'il nous aime, nous écoute et pourvoit selon sa volonté. Jésus nous aide à être dans un dialogue quotidien, sincère, de confiance, authentique avec Dieu. Non pas pour briller, non pas pour paraître, cela n'a aucun sens dans une relation avec Dieu qui est là, au cœur de notre lieu secret, intime, qui nous connaît avec ce que nous sommes. Du beau, ne l'oublions pas, nous avons une valeur aux yeux de Dieu, nous sommes créés par Dieu. Mais aussi sans doute des côtés plus sombres. Mais Dieu souhaite cette relation intime avec lui parce qu'il nous aime à tel point qu'il renouvelle cette relation par son Fils Jésus-Christ. Jean 3,16, magnifique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Vie éternelle. En communion avec Dieu. Nous pouvons donc vivre avec Dieu cette relation sincère, sans masque, parce qu'il nous connaît parfaitement et qu'il nous aime. J'aime me rappeler cette citation. Je ne sais plus qui l'a dit. Dommage pour lui, mais je vous la dis quand même, la citation. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Jean 15, versets 15 à 16, Jésus parle à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Et Matthieu 6, versets 4, 6. 18. Ton Père, qui est dans le lieu secret, te le rendra. Sachons rendre gloire à Dieu de nous avoir donné et de nous donner quotidiennement la prière, ce moyen d'expression libre et intime avec lui. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans notre relation avec Dieu, pour une relation vivante en communion avec lui. Amen. Père, Père, j'aime ces moments que je passe avec toi. Les temps de prière dans l'intimité du matin, quand je m'arrête pour un long cœur à cœur, ta parole entre mes mains. J'aime les rencontres impromptues au cours de la journée, ces rendez-vous surprises que tu permets et qui sont l'occasion de goûter encore à ton amour. J'aime l'engagement à ton service, la lutte quotidienne à tes côtés, la joie immense de partager avec toi le goût des victoires et la grâce du salut, Père, j'aime tout ce que j'ai reçu de toi. J'aime la force de la relation qui nous unit. Mais je ne peux pas croire que j'ai déjà tout reçu de toi. Je ne veux pas croire que ma relation avec toi ne soit que répétition infinie de ce que je sais de toi. J'ai besoin que chaque matin, tu ouvres mon cœur à une réalité nouvelle de ton amour. J'ai besoin que tu me prennes par la main et que tu m'amènes avec toi sur les chemins de la vie. J'ai besoin que tu renouvelles en moi l'audace de la foi, la folie de l'engagement. Je veux que ma relation avec toi ne cesse de grandir. J'ai besoin que tu me surprennes, que tu m'étonnes, que tu m'ouvres à l'infini de ta grâce. Père, merci pour cette relation avec toi. Qu'à toi soit la gloire. Amen.